l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Le virus du Covid-19 circule de plus en plus dans le département de l'Aude. Santé publique France vient de placer le département en zone de circulation active. Pour faire le point sur la situation, nous sommes avec Alain Perret, chef des urgences du centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Quelle est la situation au centre hospitalier de Narbonne ?
La situation au centre hospitalier de Narbonne, pour l'instant, elle est, on va dire, maîtrisée. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un cas de Covid assez grave en réanimation et trois personnes hospitalisées sous oxygène dans les services de médecine de l'hôpital de Narbonne. Après, on est encore loin, heureusement, des chiffres et de l'activité qu'on a pu avoir en mars et en avril.
Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, qu'avez-vous appris sur ce virus ?
Alors, on a appris beaucoup de choses. C'était effectivement le risque d'une épidémie virale respiratoire majeure est un risque qui remonte à une vingtaine d'années. Hein. Le SARS, le premier, c'était en 2003. Donc voilà, on voit que ça fait quand même plusieurs années qu'on nous promettait l'apocalypse. Et effectivement, ça avait fait son chemin dans la communauté médicale. Il y avait eu plusieurs fausses alertes, ce qui fait que un effet Pierre et le loup, comme je l'avais dit, on avait une espèce de non-inquiétude de l'arrivée de cette épidémie. Et malheureusement, elle est arrivée, ce qui a un peu déjoué tous les pronostics, hein, les pronostics initiaux. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites, peut-être que moi j'en ai dit aussi quelques-unes. Donc on essaye d'être modeste, on a appris beaucoup de choses, on a appris que la transmission du virus était quand même très aéroportée, alors qu'initialement on pensait qu'elle était plutôt manoportée, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même, quand on parle, il y a toujours des petits postillons qui peuvent contenir du virus, et manifestement la transmission se fait quand même beaucoup comme ça, alors que initialement les experts pensaient plutôt qu'elle se faisait par les mains. Hein. Alors, il ne faut pas abandonner l'idée que le virus se transmet par les mains, donc il faut quand même se laver les mains de manière très régulière. Hein. Mais il y a aussi manifestement une transmission aéroportée, ce qui a évidemment changé un peu le discours sur les masques. Alors je ne vais pas rentrer dans la polémique sur les masques, hein. il y a des arrière-pensées politiques, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Mais initialement, il y a aussi le fait que la transmission aéroportée a été manifestement sous-estimée au départ, et que aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette transmission par aérosol, le masque s'impose faisant partie en tout cas des mesures barrières. C'est pas la seule chose. Hein. C'est pas le risque de se reposer que sur le masque, c'est d'en faire une espèce de ligne Maginot du Covid. Hein. Il faut vraiment avoir un comportement global de lavage de mains, de distanciation, etc., etc. Éviter les endroits clos, aérés, etc. Voilà, le masque, ça, c'est une des parties de l'arsenal, mais c'est pas l'arme absolue pour lutter contre la transmission du Covid.
Le regain du Covid-19 ces dernières semaines vous inquiète-t-il ?
Effectivement, il y a une forme d'inquiétude. Il y a une forme d'inquiétude qui est aussi liée à l'ignorance qu'on a de l'évolution, en fait. Hein. Il y a eu des signes, il y a eu des faux départs. Hein. Au mois de juillet, on a eu un cas en réanimation avec 2-3 cas un peu sévères. On a eu peur que ça reparte. Au mois d'août, il s'est grosso modo pas passé grand-chose en termes d'hospitalisation, on s'entend. On avait, encore une fois, par nos confrères de médecine libérale, le sentiment que ça s'accélérait, hein, qu'il y avait des cas, qu'il y avait des diagnostics qui avaient été posés en ville de Covid+. Jusqu'à présent, à l'hôpital, on n'en avait pas revu. Puis la semaine dernière, il y a eu ce cas assez sérieux, hein, qui a nécessité une mise en réanimation rapide, hein, avec une inquiétude sur l'état de santé de la personne. Donc il y a une forme d'inquiétude qui est liée aussi à l'ignorance qu'on a de l'évolution, quoi. Il faut être honnête, hein. Aujourd'hui, la personne qui pourrait me dire les yeux dans les yeux, ça va se passer exactement comme ça, je pense pas qu'elle existe, et si elle existe, elle est sûrement en train de mentir, quoi. Voilà, donc il y a une forme d'ignorance, et l'ignorance en médecine, c'est catastrophique, parce que ça vous permet pas d'avoir un discours cohérent, ça vous permet pas d'avoir un discours qui est rassurant pour les patients, et sentir que le praticien qui vous soigne est lui aussi quelque part dans une forme d'ignorance, c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène pour les patients, quoi. Donc voilà, l'anxiété, elle vient sur le fait qu'on a du mal quand même à avoir une vraie visibilité sur comment ça va évoluer. Alors aujourd'hui, on est passé en niveau de circulation rouge, hein, vous savez, au niveau de la préfecture, vous l'avez rappelé avec justesse au début de l'interview. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit le plus vigilant possible. Alors, pour tempérer mon propos, je vais dire qu'on a quand même nettement progressé. C'est-à-dire que maintenant, on sait quand même mieux comment ça se transmet. On sait qu'il y a certains médicaments fortement médiatisés qui marchent pas. On sait qu'il y a d'autres médicaments, la dexamétasone en réanimation notamment, qui fonctionnent, enfin en tout cas qui améliorent nettement les pronostics. On sait qu'il y a des techniques de réanimation. Je ne vais pas rentrer dans les débats techniques, mais on était au début du Covid, on intubait, on mettait les gens sous respirateur, on les endormait très rapidement parce qu'on avait la perception que c'était ce qu'il fallait faire. On s'est aperçu qu'il y avait, des moyens termes, hein, qu'on pouvait utiliser des techniques de réanimation dites non-invasives, avec pas d'endormissement et pas de ventilation par intubation. Donc il y a différentes techniques, hein, qu'on appelle la VNI, qui fonctionnent, donc qui ont permis d'améliorer les choses, d'avoir un petit peu de confort pour le patient, d'avoir des séjours en réanimation qui sont un petit peu plus courts. On a une meilleure manière d'aborder le virus, on a progressé, et heureusement en 6 mois. Donc effectivement, et puis vous savez que l'hôpital a beaucoup travaillé pour avoir essayé de créer un service qui permette d'accueillir les patients sans trop impacter son activité. Donc c'est pour ça qu'il y a des travaux sur le plan Saint-Paul, parce que l'idée c'est quand même de faire de séparer l'activité de consultation externe de l'hôpital et d'avoir derrière de créer un service tampon qui nous permette d'hospitaliser des patients de Covid sans impacter complètement l'activité de l'hôpital, parce que on s'est aperçu que le Covid avait aussi fait beaucoup de dégâts collatéraux, parce qu'il y avait des suivis en diabétologie, en neurologie, en différentes disciplines qui n'avaient pas pu se faire pendant le Covid et qui avaient été très très délétères pour les patients.
Docteur Alain Perry, est-ce que l'âge augmente le risque quand on est atteint du Covid-19?
Ah oui, incontestablement. L'âge est le principal facteur de risque pour le Covid, hein, bien sûr. Alors c'est une donnée statistique, hein, c'est-à-dire que statistiquement, les gens qui ont fait des Covid graves sont des gens qui sont plutôt, on va dire, âgés, sans vexer personne, hein, donc plutôt au-dessus de 65 ans, on va dire. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il y a pu avoir des cas de Covid assez sérieux chez des gens plus jeunes, mais effectivement, la grande majorité des patients qui ont fait des formes graves sont des patients qui ont plus de 65 ans. Hein. Avec une médiane de décès à l'hôpital de Narbonne pendant l'épidémie en mars-avril qui était de 81 ans, quoi, vous voyez.
Les moyens de dépistage actuels vous paraissent-ils suffisants pour faire face au Covid-19?
Bah écoutez, oui, ça fait partie, je ne l'ai pas abordé, mais ça fait partie des choses qui ont beaucoup changé par rapport à la situation de mars-avril. Aujourd'hui, on a des moyens de faire des dépistages de manière beaucoup plus fréquente et rapide qu'il y a 4 mois, hein, avec les laboratoires de biologie médicale libéraux qui sont rentrés dans la danse, avec les laboratoires hospitaliers qui ont un peu augmenté leur capacité. Donc aujourd'hui, on a la capacité de faire des tests. Alors après, dans chaque amélioration, elle amène son lot de problématiques. Aujourd'hui, c'est possible qu'on teste trop, hein. Il y a énormément de tests qui sont faits chez les gens asymptomatiques, avec du coup des résultats dont on ne sait parfois que faire, avec des gens qui sont complètement asymptomatiques ou qui restent positifs pendant plusieurs jours. Donc ça pose d'autres types de problèmes, mais je pense qu'il vaut mieux pêcher par excès que par défaut, quoi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de discussions sur l'accès aux tests, est-ce que ça doit être avec ou sans ordonnance. C'est en train d'être tranché par les sociétés de biologie et les sociétés savantes de médecine et d'infectiologie, mais effectivement aujourd'hui l'accès aux tests n'a strictement rien à voir à ce qu'il était en mars-avril, quoi.
Du coup, un centre de dépistage a été créé récemment, rue Rabelais, derrière le centre hospitalier de Narbonne. Quels sont les retours que vous en avez ?
C'était quelque chose qui vient en appoint des travaux des collègues de biologie médicale libérale. Hein. Les labos de Narbonne fonctionnent très bien. Donc c'était quelque chose qu'on a rajouté, qui permet aussi de tester les personnels hospitaliers. Bon, on avait besoin de faire un accès supplémentaire, hein. Plus on a d'accès aux tests... plus on a de visibilité sur la maladie. Il y a de l'ordre de sur la ville de Narbonne, il y a une quinzaine de Covid plus par jour, quoi. Voilà. Mais ce sont des gens qui sont ou peu symptomatiques ou pas symptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas des formes développées de la maladie. On sait que dans l'immense majorité des cas, et bien heureusement, le Covid reste une pathologie bénigne. Malheureusement, il y a un petit pourcentage, mais qui un petit pourcentage appliqué à un grand nombre de populations, ça donne un nombre de complications qui est en valeur absolue pas négligeable, quoi.
Dernière question, docteur Perry, l'arrivée du virus grippal à l'approche de l'hiver va-t-elle compliquer la lutte contre le Covid-19?
Bien évidemment. La plus grande difficulté du Covid, c'est que c'est un adversaire qui avance masqué, sans jeu de mots, parce que des symptômes aussi banals que la fièvre, la toux et le nez qui coule, hein, qu'on appelle rhinorrhée en langage médical, c'est des symptômes qui sont extrêmement banals, c'est des symptômes qu'on retrouve sur le rhume banal, qu'on retrouve sur les rhinopharyngites de l'enfant, qu'on retrouve dans la grippe. Donc tout ce qui peut nous masquer ou nous faire prendre pour des Covid, des gens qui ne le sont pas, ou inversement, c'est évidemment source d'inquiétude d'avoir une superposition des pathologies hivernales avec l'épidémie de Covid, bien entendu. Après, je pense qu'il peut y avoir un bénéfice indirect, hein, le fait de respecter les gestes barrières, de porter des masques, de se laver les mains, ça fonctionne. On l'a vu un petit peu en mars, on a vu quand même une chute assez nette des gastroentérites virales, qui ont une forte transmission manoportée. On peut espérer que la population se vaccine contre la grippe déjà, hein, je pense que c'est important déjà de passer le message, et que le fait de respecter les mesures barrières diminue l'impact des épidémies classiques de grippe ou de rotavirus pour les gastroentérites, quoi.
Eh bien, merci, docteur Alain Perret, d'avoir été l'invité de Grand Sud FM. Je rappelle que vous êtes le chef des urgences du centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez vous faire tester, du coup, au 31 rue Rabelais à Narbonne, en prenant rendez-vous, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 17h, au 04 68 42 63 23. Merci, docteur.
Merci à vous, bonne journée.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.